Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
De nombreux Congolais rêvent d'aller vivre à l'étranger. Pour y arriver, certains voyagent de manière clandestine, dans des conditions inhumaines, avec des faux documents, tout ça, et on s'arrange pour voyager et aller vivre à l'étranger. Alors bien souvent, ils finissent le voyage dans les filets de la police du pays d'accueil, où ils arrivent dans le pays, au pays d'accueil, mais ils peuvent pas travailler, ils peuvent pas circuler parce qu'il faut se cacher, on n'a pas tous les papiers, on n'a pas tous les documents en règle, sinon on va vous refouler. Alors quels sont les risques auxquels on s'expose lorsqu'on voyage de manière clandestine. Et Mary Gide Kianga est chargée des opérations à l'OIM. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce qui pousse beaucoup de gens à voyager, à recourir, à voyager de manière clandestine et avec des faux papiers?
Je vais d'abord commencer par dire que se déplacer donc, d'un pays à un autre, c'est un droit universel qui est reconnu à tout individu. Mmh. Donc, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'article 14 qui le stipule. Mais cette fois, ce n'est plus comme aux temps anciens où tout le monde pouvait se mouvoir comme il voulait. Les États ont l'obligation d'assurer un certain équilibre. Donc, l'équilibre d'ordre social, l'équilibre d'ordre sécuritaire, d'ordre économique. Et c'est ce qui fait que tous les États se dotent des outils pour contrôler et réguler les mouvements des étrangers chez eux. Ça, c'est d'abord une mise au point que je tiens à faire pour avant d'arriver au fond de votre question. Donc, et là aussi, la question, l'essentiel est de savoir pourquoi on veut aller à l'étranger. Donc, quand on veut aller à l'étranger, on doit avoir un objectif précis. Et par rapport à son objectif, chercher les autorisations nécessaires pour aller à l'étranger.
Et pourquoi nos jeunes gens, d'après vous, aiment bien aller à l'étranger, toute ville? Donc il faut aller en Europe avant de mourir. Absolument, il faut une atapoto.
Tout le monde veut se réaliser, donc la recherche du bien-être. Mm. Comme on dit, il veut atteindre son idéal, son objectif. Chacun a son objectif. Ça peut être les études. Ça peut être pour des raisons de santé. Ça peut être un recyclage ou une mission de service. Ou d'autres rêves aussi pour aller travailler à l'étranger. Et là, on va parler de la migration ou l'immigration économique. Donc, beaucoup plus, ce sont des conditions dans son pays d'accueil qui parfois ne permettent pas à certaines personnes de réaliser leurs objectifs, qui les poussent à tenter à les réaliser à l'extérieur du pays. Et c'est dans la recherche de cette réalisation des objectifs que parfois on tombe dans ce que vous appelez la migration irrégulière. Donc l'objectif poursuivi, ça peut être suite à la pauvreté, au chômage, ou peut-être des bonnes études, et vous dites non, c'est mieux que je puisse aller à l'étranger, c'est là où je pourrais trouver du travail, c'est là où je pourrais gagner un peu plus d'argent. Comme on dit, on pense que l'étranger c'est mieux ou c'est meilleur que chez soi. Donc c'est ça ce qui pousse les personnes à aller à l'étranger, et ça c'est un rêve normal. Mais pour bien réaliser votre rêve, vous devez vous conformer à la réglementation.
Voilà, il faut se conformer à la réglementation. Or, la plupart des voyageurs ne se conforment pas. Ils voyagent de manière irrégulière.
Oui, parce que les basiques de tout déplacement, c'est avoir l'autorisation qu'on appelle visa. Donc, il faut que vous ayez un visa qui vous accorde l'autorisation d'entrer dans un pays étranger. Mmh. Et c'est dans l'obtention de ce visa que ça pose problème. Il y en a qui préfèrent chercher des faux papiers. Ils vont voir des passeurs qui vont trafiquer des documents.
Et qui changent des photos.
Oui, qui vont changer des photos, qui vont changer d'identité. Oui. Et vont vous faire croire qu'avec ces papiers, vous êtes en ordre de voyage. Mmh. Mais alors que vous ne vous l'êtes pas.
Pour certains, ça marche, pour d'autres, ça ne marche pas.
Non, parce que actuellement, bon, évidemment, ça dépend des périodes. Mmh. Et maintenant, tout le monde est en train de tendre vers la technologie. Tout est bien ficelé, il y a des mesures de sécurité qui font que les faux documents ne passent plus. Je peux prendre le cas de la DGM ici. La DGM au niveau des sorties qui sont déjà équipées et ont des outils hein, de reconnaissance des faux papiers. Donc, quand vous passez avec votre passeport qui est faux, vous serez déjà détecté. Mmh. Et là, ça ne vous permet pas d'entrer ni de sortir avec un faux document. Mais si vous, par malheur pour le pays, ou par, si vous trouvez que vous avez eu la chance de fuir la migration, et vous entreprenez n'importe quel chemin, vous arrivez dans un pays étranger, et sachez que vous serez dans une situation irrégulière. Mmh. Parce que vous n'aurez pas de bons papiers d'entrée. Le visa que vous devez avoir, vous ne l'avez pas. Et vous allez chercher à vous cacher chaque fois, donc vous ne serez pas en sécurité.
Et quels sont les autres risques qu'on peut courir? Parce qu'on voit de plus en plus des migrants traverser vers l'Europe, il y a des bateaux qui chavirent, il y a des choses pas bien qui se passent.
L'analyse des risques, ça se situe à trois niveaux. Il y a les risques au départ, il y a les risques en transit et les risques à l'arrivée. Mmh. Donc au départ, ça signifie dans son pays. Quels sont les risques que quelqu'un peut courir s'il tente l'aventure de l'immigration irrégulière? D'abord, il y a la perte de temps. Au lieu d'aller directement à l'ambassade pour chercher des renseignements, vous allez aller voir
les passeurs.
Pour
ceux qui amènent l'engoulou.
Voilà, l'engoulou. Et ça dépend, il y a, on appelle des tindicaires. Donc, dans les Kassai, c'est les tchobrosser. Donc, il y a beaucoup de termes.
On les appelle les tchobrosser.
Oui, tchobrosser. Donc,
il y a ces beaucoup... gens qui vous font miroiter. Moi,
voilà,
je vais vous aider à partir en Europe.
Voilà, ce sont des passeurs.
Et vous leur donnez beaucoup d'argent.
Voilà, ce ne sont que des petits escrocs. Ah, ils sont là pour bouffer l'argent et vont vous mettre dans des situations difficiles. Mmh. Donc je disais que c'est d'abord à l'étape du départ.
Oui.
Et l'autre risque, donc comme on vient de l'évoquer, c'est la perte d'argent. Vous allez débourser beaucoup d'argent, peut-être pour des visas qui ne coûtent pas très cher. Donc il suffit de faire le tour des ambassades, vous allez voir que pour avoir un visa, vous ne devez pas dépasser plus de $200. Mais... auprès des passeurs, vous êtes amené à donner des milliers de dollars, 4 000, 5 000 dollars, pour quelque chose qui peut vous coûter moins de loin.
Oui.
Alors, les risques en transit, c'est lorsque vous devez entreprendre des voies illégaux. Par exemple, vous devez passer à une frontière qui n'est pas sécurisée, vous devez aller en forêt... Vous devez traverser des lacs ou même des rivières, parce qu'il y en a qui font l'expérience pour aller en Afrique du Sud en passant par des chemins, des savanes. Il y en a même qui tombent dans des parcs où il y a des animaux sauvages. Et il y a beaucoup
avec
de
risques. Risque qu'ils soient dévorés.
Qu'ils soient dévorés. Et il y en a ceux qui passent par l'Afrique de l'Ouest. Il y a ce que les passages obligés du désert. Moi, j'ai eu l'expérience de traverser le désert, pas en tant que migrant irrégulier, mais en tant que OIM, parce que nous avions...
Pour aller vérifier un peu le chemin emprunté par les...
Oui, je suis allé appuyer notre bureau du Niger, et on a un centre de transit à la frontière avec la Libye, lorsque les événements de la Libye ont commencé, donc je suis allé jusque-là. Mais pour quitter Agadez, jusqu'à la frontière, vous avez 750 km de désert. Et vous devez dormir dans le désert. Moi, j'ai fait cette expérience-là. À l'aller comme au retour, j'ai dormi dans le désert. Et il y a des gens qui vous disent que le désert, il n'y a personne qui le connaît. Donc ça peut vous jouer des sales tours si vous n'avez pas de provisions en eau, en nourriture, et que votre véhicule tombe en panne, c'est la mort qui vous attend. Mmh. Donc voilà, il y a beaucoup de risques, il y a la mort, il y a vous pouvez tomber dans les filets des trafiquants, donc qui vont vous exploiter chemin faisant, et ça c'est en transit. Quand vous arrivez, vous avez la chance d'arriver dans les pays de destination, et d'ailleurs, il y a la mort dans la Méditerranée. Oui. Ça, c'est maintenant, c'est une actualité de tous les jours.
Oui.
Donc, voilà beaucoup de risques que les gens courent. Et même quand vous arrivez dans le pays de destination, si vous n'avez pas suivi la régularité, vous n'êtes pas entré avec la bonne autorisation, les bons visas pour un bon motif, qu'est-ce que vous ferez? Vous ne ferez rien. Vous serez dans la clandestinité la plus totale. Donc, votre vie, ça sera en train de vous cacher.
De vous cacher à tout moment parce que la police peut vous attraper et vous reculer.
Et quand vous tombez malade, vous avez des difficultés pour vous soigner.
Pour vous soigner. Voilà, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Amati et Radi nous appellent de Kindu et Félicien Kindu, là, de Kinshasa. Vous voulez également participer, appelez au 081-890-63-94.
L'information se retrouve aussi tout le jour sur radiookapi.net. Actualité, sport, environnement, économie, culture. Réécoutez les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Chaque matin, lisez aussi la revue de la presse congolaise. Radiookapi.net, votre site d'info sur le Congo. Vous êtes de plus en plus nombreux à l'utiliser.
Quels sont les risques de l'immigration clandestine? Amati et Radi, vous êtes à Kindu, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kindu.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je veux dire d'abord à tous les Congolais, ils doivent savoir qu'il y a un danger qui court derrière ceux qui veulent immigrer clandestinement. Parce que je prends d'abord l'exemple des Sénégalais. Vous savez ce qui s'est passé dans la mer avec les Sénégalais? Ils ont péri. On ne sait même pas identifier leur nombre. Alors, la question que je vais poser à l'invité, qu'est-ce qui fait que les gens puissent immigrer clandestinement? Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup de... le fait de ne pas avoir beaucoup de moyens pour dépenser dans des ambassades, ou qu'est-ce qui fait que les gens immigrent clandestinement? Merci, je suis heureux de vous parler maintenant.
Bien, Félicien Kindula de Kinshasa, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour Jody, et bonjour à l'invité, aux auditeurs.
Oui, on vous écoute.
Et moi j'ai toujours dit aux jeunes gens que j'encadre qu'il y a beaucoup plus de mal dans l'immigration clandestine que de bien, et que l'Eldorado qu'on pense trouver là où on va, ce n'est que vraiment quelque chose de facultatif. Parce que les gens, ils voient la réussite de deux, trois personnes, ils disent, non, celui-là a voyagé, il est bien, et tout ça. Mais ils peuvent pas comparer au nombre de gens qui ont tenté cela et qui ont réussi. Généralement, c'est 5%, 10% de ceux qui ont fait cela qui ont réussi. Et on voit que ceux qui ont réussi, mais ceux qui ont échoué, ceux qui sont morts dans cette situation de l'immigration clandestine, personne ne les compte. Et c'est ça qui attire les jeunes gens. Et vous savez, la vie que les gens, quand ils sont partis dans des pays comme Afrique du Sud, où ils ne peuvent pas trouver du travail, et ils ne viennent qu'attendre les gens à l'aéroport et tout ça, accompagner les gens dans les courses. J'ai vu même en Chine des jeunes gens qui vont là-bas, ils sont nombreux, ils ne peuvent rien trouver comme travail. Leur travail, c'est de nous accompagner, nous qui venons du pays et tout ça. Mais ils mènent une vie très difficile pour avoir les documents, c'est un problème. Ils sont dans l'insécurité à tout moment, ils doivent se cacher, tout ça. Et c'est le temps qu'ils perdent, et les années passent, et ils vieillissent comme ça. Même ceux qui ont réussi, qui sont partis en Europe.
Voilà, Félicien, quelle est votre question? Alors, la question que vous adressez à l'invité.
Oui, moi, je demande à l'invité, mais c'est de faire la sensibilisation, de faire comprendre. Il faut qu'il y ait beaucoup de moyens de sensibilisation pour faire comprendre aux jeunes gens de ne pas aller tenter ces histoires-là, parce que on peut réussir sa vie au pays, et nous devions au contraire faire pression à ceux qui nous dirigent pour qu'ils changent la façon de diriger le pays, pour que tout le monde se retrouve, et non pas exposer les gens au risque. C'est ce conseil que moi je vais donner.
D'accord, merci Félicien. Emery, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces deux intervenants?
Oui, d'abord à la question du monsieur
Amati de Kindu.
Il demande les causes de l'immigration clandestine. Je crois que déjà on les a évoquées. C'est d'abord la recherche du mieux-être, Ça, c'est une cause normale.
L'Eldorado,
voilà,
l'Europe, c'est...
Donc,
c'est...
chacun veut se réaliser et oui. Il veut tenter l'expérience ailleurs. Alors, maintenant, la question se pose, comment tenter l'expérience ailleurs? Comme il a dit, pourquoi on doit se donner à l'immigration clandestine? Est-ce que c'est le manque de moyens ou c'est parce que les conditions sont difficiles? Évidemment, comme je l'ai dit, que dans tous les États modernes, il y a un souci d'équilibre. Donc, chaque État ne peut accepter sur son territoire que le nombre qui lui permet de garder l'équilibre en termes sociaux, culturels, en termes politiques, en termes sécuritaires, ainsi de suite. Donc, lorsque il voit qu'il y a un danger à ce que cet équilibre soit rompu, les États doivent durcir leurs conditions. Ils doivent choisir qui peut venir chez nous et qui ne peut pas.
Mmh.
Les pays qui ont déjà un taux de chômage très significatif,
oui.
Ils ne vont pas vouloir que d'autres personnes viennent pour chercher de l'emploi. Parce que déjà, ils en manquent pour donner à leurs concitoyens.
Mmh.
Donc voilà un volet, un exemple. Si quelqu'un veut émigrer ou immigrer dans un pays étranger pour chercher du travail, il n'aura pas le visa. Déjà, on va lui dire non, pour le travail, on ne va pas vous donner le visa. Pour les études, même si les conditions, vous ne les remplissez pas, vous n'aurez pas le visa. Mais qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens craignent de perdre le temps parce qu'il faut remplir des conditions A, B, C et ils préfèrent aller au-delà. Et ils essaient de contourner pour arriver à destination.
Oui.
Et c'est cet effort-là de contourner les voies régulières qui fait que les gens se retrouvent dans la clandestinité ou l'irrégularité. Je voulais aussi soulever que l'irrégularité, c'est pas seulement quand on veut entrer, mais il y en a aussi qui entrent régulièrement, mais dont le séjour devient irrégulier.
Donc, le visa est déjà expiré,
voilà,
il reste là-bas.
Il reste là. Il demande l'asile. Et maintenant, il y a beaucoup qui sont dans des situations irrégulières, notamment.
Ils trompent même, ils disent que voilà, je suis poursuivi dans mon pays pour des raisons politiques et alors je préfère rester ici.
Voilà. Et pour la plupart, ils changent d'identité. Donc, quelqu'un qui s'appelait Nathan Kianga ou je ne sais pas qui, mais il va changer. Il va porter un autre nom qui n'a rien à voir avec son histoire. Donc, si vous êtes licencié, docteur, je ne sais pas en quelle discipline, et que vous décidez de changer d'identité, vous perdez tous vos diplômes. Donc, vous êtes, comme on dit, vous êtes né de nouveau, mais quelle nouvelle naissance.
Vous formez
donc,
une fausse identité,
voilà,
qui va vous coller.
On va vous coller et oui. Là, vous perdez tous les atouts. Nous le vivons chaque jour. Parce que nous recevons beaucoup de nos compatriotes, par exemple pour le cas de la RDC,
oui. Qui
décident de revenir au pays après avoir tenté l'expérience ailleurs. Et quand ils reviennent, du fait qu'ils ont changé d'identité, parfois, ça pose problème. Et quelqu'un qui arrive, vous voulez l'assister sous un nom X, mais quand il arrive, il vous donne ce nom X, mais quand vous allez sur terrain, dans son quartier, on ne le connaît pas sous ce nom-là. Donc voilà un peu de...
Ça complique la situation.
Ça complique la situation.
Oui.
Donc, quand vous êtes dans un pays étranger, que vous avez changé d'identité à cause de la recherche ou de la possibilité d'obtention de titres de séjour, vous perdez toute votre histoire. Si vous êtes ingénieur dans tel domaine, vous perdez tout ça. Vous ne pouvez pas dire, voilà, vous êtes ingénieur. Parce que vous allez vous retrouver avec une double identité.
Mmh.
Donc voilà la difficulté, c'est certaines choses qui sont à déplorer lorsqu'on se retrouve dans une situation d'irrégularité.
Joseph Kalilwa nous appelle de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody, Daniel Kachama.
On vous écoute.
D'emblée, j'ai suivi l'invité.
Oui.
Il a commencé par reconnaître que se déplacer d'un pays à l'autre, c'est un droit universel. Ça, c'est connu de tous. Peut-être se demander pourquoi les gens voyagent clandestinement. Moi, je prends le cas de le cas particulier de notre pays, tout simplement parce que le document même qui t'oblige de voyager d'une manière correcte, ces documents ne sont pas à la portée de tout le monde. Je parle par exemple d'un passeport. On a le cas ici à Lubumbashi. le passeport pour le pays que le gouvernement a donné, ça te coûte entre 173 dollars ou 170. Mais combien d'états faut-il pour avoir ce passeport? Quand vous allez, vous payez tout à la banque, on vous prend des photos, vous remplissez toutes les formalités. Pour avoir son passeport, je vous dis, vous pouvez faire plus de 6 mois, alors que vous avez déjà tout rempli. Alors, je crois que seulement cet exemple vous fait comprendre pourquoi beaucoup de gens préfèrent, par ce qu'on appelle ici communément les bilingues, ils voyagent clandestinement, tout simplement parce que il y a une certaine lenteur au niveau de l'administration du pays, et même trouver les documents qui te permettent de voyager, on ne sent pas une sensibilisation. Il faut être connecté, par exemple ici, pour savoir où se trouve le consulat d'Afrique du Sud, le consulat de ceci. Pas de sensibilisation. Alors, il y a des gens, des charlatans qui sont dans la ville et qui sont là, et des affiches partout, obtention de visa, alors qu'il y a tout un gouvernement qui voit ces affiches. Mais ces gens ne sont pas inquiétés.
D'accord,
mais ce qui est vrai, nous voulons demander à l'invité, ce qui est vrai, voyager clandestinement avec tous les risques qu'il a cités, cela n'est pas correct. Mais ma question est de savoir comment lui, en tant que spécialiste dans le domaine, pourra aider le gouvernement à avoir une politique qui permet à ce que sa population et les gens qui veulent voyager dignement puissent rapidement trouver le document et ainsi voyager dans le bon et difforme.
Bien, merci. Merci, Joseph. Paul Nawej, vous êtes à Kolwezi, au Katanga. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur.
Oui, qu'est-ce que vous avez à nous dire, Paul Nawej?
Oui, je veux...
Désolé, la ligne n'est pas très très bonne. Je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir Jean des Dieux, Kafouka des Kikuit. Bonjour Jean des Dieux, quelle est votre préoccupation?
Bonjour, monsieur Jody, bonjour aussi à notre invité et à tous ceux qui sont présentement branchés à l'émission. Oui, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole. Je dirais que pour ce qui concerne les migrations grandissimes d'un pays à l'autre, surtout ici à l'autre coin du Kasaï occidental, précisément aux frontières de Kamako, vraiment il y a trop de risques, je vous dis, monsieur le journaliste. Voir qu'un Congolais, citoyen congolais, qui fait rester toute la journée à la maison, et le soir, vous le verrez en train d'emballer ses bagages pour dire que non, je suis déjà ici, je vais partir, et en Angola. Quelle heure là? Parfois 18h, 19h, il se recoupe même 6 ou 7 personnes qui vont prendre la direction vers les champs, là où on est en train de faire les champs et dans les mines, là, ils profitent, là, ils partent. Mais il y a des risques, parfois, vous entendez, parce que ce sont des expériences où je vécu, c'est moi, je suis vécu là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc là où on partait même pour aller faire les champs, c'est tout près, là où il y a des bornes fontaines de l'époque d'Isaïe, là où on a écrit les répliques d'Isaïe. Quand vous partez faire les champs là-bas, c'est juste, vous verrez même les Angolais qui viennent même en porte là et faire leur travail. Campêtre, nous aussi de l'autre côté. C'est à partir là où il y a un profil pour aller entrer là-bas, mais ils trouvent des risques parfois. On les arrête, on les met dans les cachots, on les frappe, les autres risquent la mort, tout ça. Mais notre État congolais ne se préoccupe pas de ça. Il doit quand même mettre des rigueurs sur ça. Vraiment, il y a des risques. Cette émission pouvait quand même aider beaucoup de gens pour inviter des heures, des histoires, et puis ça n'honore pas le peuple congolais.
Merci Jean des Dieux, Emery.
Oui, merci. C'est je dois féliciter et encourager Jean Didier parce que c'est comme il dit, c'est du vécu. Nous aussi, nous avons été par là, Chikapa, Kamako, Kamounia. C'est vraiment la réalité au quotidien. Beaucoup de jeunes gens, ils ont pratiquement perdu l'espoir de vivre dignement au pays, d'évoluer au pays. Ils préfèrent
aller en Angola, chercher les diamants.
Voilà. Et surtout du fait que le diamant, le cours mondial ont baissé, et maintenant c'est les sauves qui peuvent. vous trouvez des familles dont les papas, les jeunes gens sont partis, il y a que des femmes qui sont restées pour nourrir ceux qui sont encore restés en famille. Donc, dans des conditions difficiles, ils partent en Angola, comme ils disent, ils ne suivent pas le voies officielles. Ils entrent en forêt avec tous les risques. Parce que quand vous entrez en forêt, à supposer que vous tombiez sur une patrouille des militaires, ils peuvent vous considérer comme des rebelles. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? S'il n'y a pas une bonne information, ils peuvent même tirer sur vous. Donc voilà beaucoup de risques que les gens courent en ne respectant pas les voies
régulières. D'ailleurs, aussi souvent, il y a des vagues de Congolais qui sont refoulés de l'Angola. Les femmes sont violées dans des conditions, sont refoulées dans des conditions difficiles.
Oui, 2013-2014, nous avions un bureau, parce qu'on avait un programme à Yem, à Mwanda et à Kamako, au Kasaï occidental, pour assister les expulsés de l'Angola. Et il y a des gens qui viennent dans des situations difficiles, humanitairement parlant, donc des gens qui viennent démunis, et des gens qui viennent avec des plaies, ils sont malades, et des gens qui n'ont rien. Et pourquoi ? Parce que vous n'avez pas respecté la réglementation. C'est ça la raison. Parce que là, des gens qui pensent que quand ils vont en Angola, c'est comme s'ils allaient chez son voisin dans les mêmes villages. Alors que l'Angola, c'est un autre pays. Donc, il y a des gens qui ne savent pas que passer un pays à un autre, même si vous avez la même ethnie, la même tribu, de l'autre côté, vous devez avoir un document qui vous permet d'aller de l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un problème fondamental, je pense.
C'est l'ignorance. L'ignorance.
C'est l'ignorance et c'est peut-être aussi, je ne sais pas, peut-être l'entêtement. Et les gens ne pensent pas que l'Angola, c'est un pays étranger. Les gens ne pensent pas que le Congo-Brazzaville, c'est un pays étranger. Ils trouvent normal d'aller sans papier. Ils trouvent
de
normal,
rester là-bas, voilà, dans une situation irrégulière.
Ils disent non, en Lingala, tous abisso n'abisso. Donc voilà, ils croient que parce que c'est un pays avec lequel on partage beaucoup de choses, la culture, les tribus, les habitudes de tous les jours. Oui. Et moi, je peux rester, je parle la même langue, il n'y a pas d'accent, et je reste là.
Je traverse comme je veux.
Je traverse comme je veux. Donc, c'est ça l'ignorance et parfois l'entêtement. Parce que même si on l'a dit, la Radio Capi, ce n'est pas la première fois que vous m'invitez, nous lançons les messages, mais il y a toujours, même ce qui se passe sur la Méditerranée, vous allez trouver que quand vous allez faire des enquêtes, on va jamais manquer des Congolais. Moi, je connais même des jeunes gens dont on croyait qu'ils étaient déjà en Europe et qui ont appelé il n'y a pas longtemps qu'ils sont en Libye. Et ils cherchent à traverser.
Ils passent souvent par la Libye.
Voilà, parce que pour arriver, les chemins dont je vous ai parlé, les déserts, donc vous passez par la Libye, soit par le Tchad. Donc vous par le Niger plutôt. Donc quand vous prenez Mali, Sénégal, Togo, tous ces pays en Nigeria, ils aboutissent au Niger. Et d'autres passent par le Tchad. Ils vont en Libye.
Ce sont là les points de rencontre.
Voilà.
Et les passeurs.
Les passeurs, ouais. Ils connaissent. Donc les gens qui se disent spécialistes des déserts, c'est eux qui les amènent en Libye. Parce que la Libye, pourquoi ? Parce que c'est il y a Lampedusa qui est plus proche des côtes libyennes, et c'est là où les gens ils peuvent prendre des embarcations qui ne sont pas très très fiables. Ils ont l'espoir d'arriver vite par rapport à l'Espagne où vous devez faire des grandes distances. Donc du côté du Maroc, comme le Maroc a durci le contrôle au niveau des frontières, beaucoup évitent le Maroc pour aller vers la Libye. Vous savez, avec la situation des crises qui traversent le pays, et là, il y a beaucoup de réseaux de passeurs et des trafiquants qui se sont installés et ils font l'argent sur le dos de migrants.
Voilà, on va accueillir Chris Mutombo de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour Jody.
On vous écoute.
Bonjour à l'autre invité et à tous ceux-là qui nous suivent.
Bonjour.
Quelle est votre question ?
Oui, j'ai voulu un peu parler et donner un peu une certaine idée par rapport à la thématique du jour.
Oui.
La plupart des gens procèdent à des voyages qui sont clandestins. Ils se procurent des documents officieux, des visas officieux Alors, ma question est celle-ci. Alors, quelles sont les précautions que l'État congolais a pris pour pouvoir éradiquer cette migration clandestine? C'est ça ma question.
Merci. Emery.
Oui, d'abord, moi, je ne viens pas au nom du gouvernement.
Oui.
Je suis de l'Organisation internationale pour les migrations. Dans notre rôle de prévenir la migration ou les conséquences de la migration irrégulière, c'est comme ça que je suis là. Mais je peux vous dire aussi, nous qui travaillons avec l'État congolais à travers ses services, notamment les services des migrations, donc la DGM, est en train de multiplier les efforts pour essayer d'arriver à contrôler les mouvements, le flux migratoire à l'entrée comme à la sortie de la RDC. Mais il se fait que beaucoup de, comme j'ai dit, il y a beaucoup qui voyagent avec des bons documents, mais qui tombent dans la clandestinité. Il y a beaucoup qui voyagent de la RDC pour un pays X, alors que sa destination, c'est le pays Y. Donc, ils utilisent le pays X comme facilité pour sortir, et c'est arrivé dans ce pays X qu'il va chercher à aller dans le pays Y, Z. Et c'est là où il va se retrouver dans une situation irrégulière la plus totale. Parce que ici, il est sorti avec un bon passeport. Par exemple, je prends ceux qui pensaient que la voie de l'Est, c'est la voie la plus facile. Mmh. Ils quittent ici, ils vont en Turquie. Quand ils quittent, ils présentent l'aspect commercial de son voyage. Il voyage pour les affaires.
Pour aller acheter.
Voilà. Il va à Dubaï, il va en Asie. Mais arrivé là-bas, il a déjà son plan. C'est pour aller en Grèce. Et pour finir en Belgique ou en France. Mmh. Voilà, donc au départ de Kinshasa, il voyage avec de bons documents.
Oui.
Et l'État ne va pas lui empêcher.
Oui, oui.
Parce qu'il a présenté le justificatif de son voyage et il est en règle, il part.
Mmh.
Mais c'est chemin faisant qu'il va changer de projet de voyage et au lieu d'aller faire les affaires, il va continuer son chemin pour atteindre
sa destination. Il avait déjà son petit plan derrière la tête.
Voilà, c'est comme ceux qui se retrouvent en Afrique de l'Ouest. Pour beaucoup, ils traversent Brazzaville pour faire les affaires. Arrivé à Brazzaville, et c'est là où ils commencent à tenter l'aventure. Cameroun, et il va foncer vers les autres pays jusqu'à chercher à atteindre le Maroc. Donc, un des pays maghrébiens pour chercher comment il peut rejoindre l'Europe.
Et d'autres par Lubumbashi,
voilà,
pour aller en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud, en passant par la Zambie. Parce qu'ils savent que, où, par exemple, pour les Zimbabwe ou les Congolais ne payent pas les visas. Donc, il y a beaucoup qui vont au Zimbabwe. Il dit non, je vais acheter des histoires, je vais revenir, ou en Tanzanie. Quand il arrive là, et c'est à partir de là qu'il prépare son projet pour aller en Afrique du Sud. Donc voilà, la RDC fait des efforts pour contrôler les flux migratoires, et avec la démigration congolaise, nous nous efforçons à sensibiliser et à prévenir tout risque. Mais comme je l'ai dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un de réaliser son rêve.
Mais certains jeunes se disent souvent non, l'Europe m'offre toutes les meilleures conditions ici, je souffre beaucoup et je dois absolument aller là-bas. Est-ce que c'est un rêve, est-ce que ce rêve-là est réaliste? Est-ce que mieux vivre, c'est seulement en Europe ou bien on peut mieux vivre aussi dans son pays?
On peut mieux vivre dans son pays. Vous et moi, nous sommes ici, comme tous les autres collègues qui travaillent, que ça soit dans l'administration publique, que ça soit dans les activités
mais
indépendantes.
Il y a le chômage, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, on souffre. Alors
oui,
vous
mais il faut voir les statistiques. Maintenant, l'Europe fait face à des millions de chômeurs. Vous suivez ce que l'actualité politique en France, ça tourne autour du chômage. Donc, vous voyez que pourquoi maintenant il y a des barrières? Pourquoi ils ont renforcé les contrôles aux frontières? Vous savez que l'Europe, il y a beaucoup de pays qui veulent maintenant revenir à l'Europe des frontières. Donc, à l'Europe des pays. Pas des grands ensembles de l'Union européenne où on avait instauré un visa Schengen qui permettait à quelqu'un qui a l'autorisation d'un pays de circuler sur tous les autres, les 26 pays. Mais maintenant, ils disent qu'il y a un risque que des gens qui entrent dans un pays se retrouvent
partout,
voilà, partout, et ça risque d'asphyxier ceux qui n'ont pas les moyens de supporter. Donc, comme j'ai dit au début, les problèmes de gestion de l'équilibre. Donc, les pays, même chez nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui que, par exemple, sur le plan social, qu'on accepte 2 millions de citoyens étrangers qui vont venir chez nous. Ça va poser un problème. Voyez le Congo-Brazzaville. Tous les pays, ils ne dépassent pas 10 millions. Hein, donc, ils sont dans les 6 millions dont on entend. À supposer que Congo-Brazzaville dise que pour les gens de Kinshasa, ils peuvent venir ici sans visa, sans rien. Si la moitié de Kinshasa se déverse à Brazzaville, mais les pays n'aura plus de nourriture. Parce que il n'y aura pas équilibre. L'équilibre sera rompu et les gens vont souffrir. Vous avez suivi ce qui s'est passé avec l'histoire d'Ignélé. Quand les gens ont quitté Dongo chez nous pour aller à Dungu, au Congo-Brazzaville. Mais en l'espace d'un mois, tous les champs étaient dévastés. Il n'y avait plus d'effet de manioc pour les gens. Oui. Vous voyez que tout ça, ça crée des déséquilibres. Donc chaque État a le souci de gérer l'équilibre au niveau de son pays.
On va accueillir Jacqueline Ndarabou de Kindou. Jacqueline, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
On vous écoute.
Ok, ma question est celle de savoir les expulsions que les Congolais ont victimes en Angola et suite à leur immigration clandestine, quelles sont alors les conséquences que peuvent subir ces Congolais du point de vue humanitaire et sécuritaire et politique dans la République démocratique du Congo?
Bien, merci Emery.
Oui, merci beaucoup maman Jacqueline. C'est une question très très importante. Les gens négligent beaucoup d'aspects. Prenons seulement les cas de nos concitoyens qui sont expulsés de l'Angola. Quand ils reviennent, ils n'ont pas d'identité. Donc ça d'abord, ça pose un problème au niveau du pays. Est-ce que ce sont réellement des Congolais ou pas? Ça c'est un problème.
Oui.
Alors maintenant, on doit se fier à l'identification que l'on fait. On doit chercher à savoir, vous êtes originaire d'où, vous devez décliner, retracer toute votre origine pour qu'on arrive à apprécier si vous êtes Congolais ou pas. Parce que pour beaucoup, quand ils vont en Angola, ils laissent leur carte d'électeur. Il y en a même qui les brûlent, qui les déchirent. Quand ils sont en Angola, ils n'ont aucun document. Même pour le gouvernement angolais, ils ont des difficultés parce qu'on a eu organisé des sessions de formation pour la migration angolaise et des formations conjointes. Ils vous disent que parfois on n'arrive pas à déterminer si telle personne est congolaise ou pas. Mais ils les font quand même parce qu'ils font des enquêtes, des interviews. Quand la personne dit qu'elle est entrée par Mwanda, Yema et qu'elle est originaire de Kinshasa ou du Bas-Congo, alors là, on les refoule vers le Bas-Congo. Quand la personne dit qu'elle est originaire du Bandundu ou de Milé, le plus proche du Bandundu, on les refoule vers le Bandundu. Et maintenant aussi, il y a certaines personnes qui sont originaires du Bas-Congo, mais qui sont refoulées à Dilolo. Donc, on vous envoie à l'extrémité qui vous rend
vous n'avez pas de famille là-bas, vous n'avez personne.
Vous ne connaissez personne et vous ne savez pas rejoindre le Bas-Congo ou Kinshasa. Parce que quand nous étions à Dilolo, on a trouvé beaucoup de jeunes qui sont originaires de Bandundu, de Kinshasa et du Bas-Congo, mais qui ont été expulsés à Dilolo. Parce que pour l'Angola, c'est la RDC. Peu importe le point où on vous refoule, mais vous êtes dans votre pays. Vous devez chercher à rentrer chez vous. Donc ça, c'est d'abord des risques d'isolement et les risques de perte d'identité. Deuxièmement, ce sont des gens qui reviennent sans rien. Ils n'ont rien. Ils sont brûlus. Donc voilà. Les conséquences sont énormes parce que quand vous avez violé une loi, on vous traite comme un criminel. Hein? Donc vous avez violé la loi d'un pays et voilà, il y a des mesures disciplinaires qui sont prévues par la loi. Donc, vous serez traité comme tel. Donc, sur le plan humanitaire, nous qui avons été sur terrain, nous avons rencontré beaucoup de cas de maladies. Les enfants qui reviennent non accompagnés, les mineurs non accompagnés, vous avez des enfants même de 10 ans qui reviennent de l'Angola, surtout à Kamako. Vous avez même des enfants de 8 ans qui reviennent de l'Angola comme ça.
Non accompagnés, les parents
accompagnés,
sont pas là.
Ils sont seuls. Parce que aussi, il y a d'autres phénomènes qui naissent à cause de la pauvreté. Il y a même la vente d'enfants par certaines familles congolaises. Et ça, nous avons recueilli des informations sur place.
La prostitution aussi.
Ça n'en parlons pas. Ça donc, il y en a qui sont violés, pas par le fait que de l'expulsion, mais par l'effet de dénuement. Parce que vous avez été expulsé, vous n'avez rien. Et vous êtes une femme ou vous êtes une fille, qu'est-ce que vous allez faire? Parfois, vous allez vous donner à la prostitution pour pouvoir survivre. Donc, c'est ça, le besoin de survie, d'expulser les pousses à commettre des infractions
oui.
ou des actes. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Mwanda, des informations recueillies. Beaucoup aussi sont les faits, le banditisme et les faits des expulsés qui ne sont pas originaires des lieux.
Donc il y a beaucoup de risques
voulant
voyager dans la clandestinité.
Beaucoup de risques sur la personne elle-même et beaucoup de risques aussi sur la société.
Sur la société. Alors, vaut mieux suivre les voies
légales.
Oui, légales. Donc, voyager en bon ordre.
En bon ordre. Et quand vous avez obtenu l'autorisation.
Mais vous avez suivi un auditeur de Lubumbashi qui a dit pour avoir le passeport, c'est très difficile. Et il dit 6 mois, il faut attendre au moins 6 mois pour avoir les transports et ça coûte 173 $ d'après lui. C'est ça qui favorise aussi l'immigration clandestine.
Oui, mais le passeport en lui seul ne vous permet pas de voyager. Vous devez en plus du passeport parce que le passeport n'est que un document d'identité internationale.
Oui.
Donc quand vous avez un passeport, on sait vous identifier par rapport à votre pays. Mais vous n'avez pas le droit d'aller dans un pays étranger. Pour aller dans un pays étranger, il faut que vous ayez l'autorisation qui est appelée généralement les visas. Donc, c'est le visa qui vous donne l'autorisation d'entrer dans un pays.
Oui.
Mais comme je reviens par ce souci d'équilibre des États, c'est pas tout le monde qui peut aller dans un pays étranger. Donc, les pays étrangers, ils posent des conditions pour que les étrangers arrivent chez eux. Il faut qu'il y ait, que ce soit un motif valable. Donc, quand le motif n'est pas valable, on va pas vous donner le passeport, même si vous êtes citoyen du monde.
Oui.
On va pas vous donner le visa plutôt l'autorisation d'entrée.
Tout à fait. Bien, merci Emery Egide Kianga. Je rappelle que vous êtes le chargé de l'opération à l'Organisation internationale pour l'immigration, représentation de la RDC. Merci et à la prochaine.
Merci beaucoup.